Alors il nous faut devenir les uns les autres des sacrements, des signes efficaces de la miséricorde de Dieu pour nos frères. Vous voyez ? C'est exactement l'expérience de Saint Pierre. Il a renié, je crois comme personne d'autre, il a fait cette expérience profonde du pardon de Jésus et il en est devenu le témoin privilégié en tant que chef des apôtres, chef de l'Église. Souvenons-nous de la manière dont le pape s'est présenté à la presse lorsque des journalistes, voyant arriver ce pape d'Argentine, se demandaient qui il était. Quelle a été la réponse du pape ? Qui êtes-vous ? Réponse du nouveau pape François, un pécheur pardonné. Vous voyez exactement l'expérience de Saint-Pierre, qui a été aussi lui-même un pécheur pardonné, et qui sait qu'en tant que chef des apôtres, chef de l'Église, sa mission principale va être de faire l'expérience de cette miséricorde, non seulement à l'Église, mais au monde entier. C'est donc devenu, de fait, la définition, sa devise, la devise du pape, François, un pécheur pardonné. Voilà. Donc, ce jubilé de la miséricorde s'inscrit dans les jubilés de la Bible. Donc, mon approche sera ce soir essentiellement biblique. Ça tombe bien, puisque vous connaissez la Bible par cœur. Si ce n'était pas le cas, on la découvrira ensemble. Voilà. Et au paragraphe 13 de la bulle d'indiction du pape, voilà ce qu'il dit. Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d'abord nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il nous faut retrouver la valeur du silence. Bon, là, il y a du travail. Hein. Qu'il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la parole qui nous est adressée. C'est ainsi qu'il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d'en faire notre style de vie. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est-à-dire retourner à la source, dans la parole de Dieu, pour redécouvrir à cette source le visage du Père manifesté en Jésus-Christ, du Père riche en miséricorde. Donc, mon intervention comprendra trois points. Le premier point sera « Qu'est-ce qu'une année jubilaire ?» Le deuxième point « Jésus témoin de la miséricorde du Père. » Voilà, puis suivant l'état des troupes, eh bien, un troisième point. Hein, le pape François veut du concret, où là je reprends quelques points essentiels de sa bulle d'indiction. Alors, une année jubilaire. Je pense que ici, on pourrait peut-être faire un exercice, mais personnel, comme ça, intérieur. Nous avons tous en mémoire un lieu et un moment qui nous a marqué et qui a marqué toute notre vie. Nous évoluons dans ces deux dimensions, l'espace et le temps. Alors pour nous rejoindre, eh bien Dieu a voulu entrer dans ces deux dimensions. Il a d'abord choisi un peuple et il a même choisi un lieu, un espace sur la terre pour y faire habiter son nom. Et ça, c'est la manière dont parle la Bible. Y faire habiter son nom, ce lieu, cet espace, c'est le temple de Jérusalem. Un lieu qu'il a consacré. Nous trouvons ces mots dans le récit de la dédicace du temple de Jérusalem, que nous reprenons d'ailleurs chaque fois que nous célébrons à la fête de la dédicace de nos églises, c'est-à-dire de la consécration de nos églises, que tes yeux soient ouverts sur cette maison, jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit, ici sera mon nom. De même que Dieu a choisi d'habiter un lieu sur la terre pour nous rencontrer, pour être le Dieu avec nous, c'est-à-dire l'Emmanuel, eh bien de même, Dieu a choisi aussi d'habiter le temps. De même qu'il a consacré un lieu sur la terre, de même il a consacré aussi un temps pour habiter ce temps de sa présence, pour que ce temps, comme le temple de Jérusalem, soit un espace pour le rencontrer. Ce temps, c'est le sabbat. Alors parfois je prononcerai shabbat, parce que c'était de cette façon que nous parlions du shabbat à Jérusalem, et ça m'est un peu resté. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, vous voyez, on dit le dimanche il faut consacrer du temps au Seigneur. En fait, on est dans la démarche inverse, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est lui qui a consacré ce temps, et nous entrons dans ce lieu, dans ce temple, comme nous entrons dans le temple, voilà, pour le rencontrer. Le septième jour, nous dit le livre de la Genèse, Dieu s'est reposé pour contempler l'œuvre de la création qu'il avait accomplie, et il a consacré, c'est-à-dire qu'il a mis à part, le terme est très fort en hébreu, c'est kadash. Kadash, ça veut dire couper, séparé, le septième jour, pour partager avec l'homme qu'il avait créé cette contemplation que la Bible appelle repos. Et ceci nous indique que le septième jour n'arrive pas, si vous voulez, à la suite des six autres jours de la même manière, comme une sorte de décompte. Le septième jour, pour les Juifs, arrive comme l'accomplissement du temps, ce qui donne du sens au temps. Voilà. Parce qu'il est le moyen qui nous fait comprendre que Dieu habite ce temps et que dans ce temps, je peux le rencontrer. Voilà. Le septième jour, donc, arrive comme l'accomplissement du temps. Si vous voulez, il n'est pas comme si Dieu avait son agenda. Il a rempli les six jours, comme nous. Ah, puis bon, ben, tiens, j'ai plus rien à faire le septième. Ben, je vais regarder ce que j'ai fait pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, non, ce n'est pas du tout de cette manière-là que le Shabbat est envisagé. Mais il arrive comme, si vous voulez, un temps qui viendra comme donner du sens au temps, au jour qui passe. Et c'est pour cette raison, que ce temps-là, le Shabbat, et vous savez qu'il commence le vendredi soir à la première étoile dans le ciel, le Shabbat est accueilli par un rite qui se fait à la maison par la mère de famille qui est l'allumage des bougies. Parce que justement, il arrive comme une lumière qui éclaire le reste de ma semaine, qui donne du sens au reste de ma semaine. Vous voyez ? Et donc c'est le rôle de la femme que d'éclairer les bougies du Shabbat à la maison. Et le Shabbat est accueilli comme une fiancée. Ça aussi c'est important, parce qu'il rappelle au peuple élu que Dieu a fait alliance avec lui et que cette alliance justement donne du sens à la vie, donne la lumière à notre vie. Ce jour-là, si vous voulez, on se souvient que Dieu se souvient de nous. Il faut toujours penser que c'est Dieu qui a l'initiative. Voyez, on se souvient que Dieu se souvient de nous. Voilà. Et les Juifs disent, ce n'est pas les Juifs qui gardent le sabbat, c'est le sabbat qui garde les Juifs, qui les protège d'une certaine manière. Comme nous on dit par exemple, il faut garder les commandements de Dieu, là encore il faudrait avoir la démarche inverse et se dire c'est les commandements de Dieu qui nous gardent, qui nous protègent. Enlevez un code de la route et vous verrez les catastrophes. Voilà. Et bien c'est la même chose, nous avons besoin d'un code de notre route pour chacun. Voilà. Donc le jubilé dans la Bible tire son origine du sabbat. Et comme le sabbat, il veut être un temps habité par le Seigneur, un temps de grâce. Il veut comme anticiper le face-à-face avec Dieu, auquel tend toute notre vie. C'est ce qui donne du sens à notre vie. C'est que cette vie, elle ne va pas s'arrêter avec les horizons de cette terre, mais qu'elle est faite pour un au-delà qui est en fait un face-à-face, une rencontre avec Dieu. Notre vie donc dépasse les horizons de cette terre, et le sabbat veut comme anticiper, si vous voulez, déjà sur cette terre, veut comme anticiper cette rencontre, veut comme anticiper cette alliance éternelle avec Dieu, qui sera, comme on le dit dans nos prières, un repos éternel. Donnez-lui le repos éternel. Autrement dit, un sabbat sans fin. Là, je cite la bulle d'indiction du pape au paragraphe 7. La miséricorde fait de l'histoire de Dieu avec Israël une histoire du salut. Répéter sans cesse « Éternel est son amour », comme le fait le psaume 135, semble vouloir briser le cercle de l'espace et du temps pour tout inscrire dans le mystère éternel de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume 135, où un refrain revient constamment. « Car éternel est le Seigneur, car éternel est son amour, car éternel est son amour. » Et le psaume retrace finalement tous les bienfaits, toutes les interventions de Dieu dans le temps, justement, dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il y a ce refrain qui revient, « Car éternel est son amour. » Eh bien, le pape dit que ce refrain veut comme briser le cercle de l'espace et du temps pour tout inscrire dans le mystère éternel de l'amour. Et il ajoute plus loin, « C'est comme si on voulait dire que non seulement dans l'histoire, mais aussi dans l'éternité, l'homme sera toujours sous le regard miséricordieux du Père. » Voilà le sens du sabbat, c'est-à-dire de cette journée spéciale qui vient comme accomplir ma semaine, qui va permettre cette rencontre de Dieu et donner du sens au temps, donner du sens à ma vie, et qui veut comme anticiper, être une annonce, et en même temps une annonce qui est déjà réalisée, comme une anticipation de cette rencontre éternelle avec Dieu, qui sera un repos éternel, placé, dit le pape, sous le signe de la miséricorde de Dieu. Ainsi donc, la vie du peuple d'Israël était marquée par des étapes. Il y avait le sabbat, le septième jour, donc ça j'ai déjà insisté là-dessus, jour de contemplation consacré par le Seigneur, selon ce que nous dit la Genèse au chapitre 2, verset 3. Mais aussi, et c'est important par rapport à ce qu'on va voir du jubilé, jour aussi où il est fait mémoire de la libération d'Égypte. Si vous lisez le Deutéronome au chapitre 5, verset 15, voilà ce que l'on vous dit. « Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte, d'où l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. » Donc vous voyez que le jour du sabbat, il est comme rattaché à deux choses essentielles, la création de Dieu, donc l'intervention de Dieu, on pourrait dire, dans l'histoire, ou en tout cas la création, et aussi la sortie d'Égypte, c'est-à-dire marquée par la délivrance de l'esclavage. Donc voilà pour le jour du sabbat. Il y avait aussi l'année sabbatique, qui revenait tous les 7 ans. Selon la loi de Moïse, au cours de cette année sabbatique, la terre était en repos, en jachère, et les esclaves étaient libérés. Bon, je vous donne une seule référence, mais il y en a plusieurs. Exode 23, 10 à 11. Et à partir de celle-là, dans vos Bibles, vous pourrez retrouver les autres. Exode 23, 10 à 11. Et la loi prévoyait aussi la remise de toutes les dettes, selon des indications précises. Et tout cela devait bien sûr être fait en l'honneur de Dieu qui a lui-même libéré son peuple. Donc, le sabbat, le septième jour, l'année sabbatique, la septième année, tous les 7 ans, et il y avait enfin l'année jubilaire qui revenait, alors ça c'est une expression de la Bible, toutes les 7 semaines d'année, autrement dit, 49, au bout de la 49e année, enfin là, c'était la 50e. Après 49 ans, la 50e année était comprise comme une année jubilaire. Ça, vous l'avez en Lévitique 25, verset 8. Et cette année jubilaire amplifiait encore les rites et les usages et les bienfaits de l'année sabbatique et les célébrait d'une manière encore plus solennelle. Ainsi, l'année jubilaire voulait rappeler aux hommes ce pourquoi ils étaient faits. Elle était comme une anticipation du royaume de Dieu. Tous les 50 ans, on essayait déjà de vivre comme dans le royaume de Dieu. Alors voilà ce qui se passait. Le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir le cor pour une acclamation. Au jour du grand pardon, vous ferez retentir le cor dans tout votre pays. Vous déclarerez sainte cette 50e année et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Lévitique 21, 10. Vous avez peut-être repéré que le cor est mentionné deux fois. Le nom jubilé donné à ce temps de grâce vient probablement de cet instrument, le cor, parce qu'il était fait avec une corne de bélier, et le bélier en hébreu se dit yobel. Voilà. Donc c'est probablement de là que vient le mot jubilé. Cet instrument est appelé aussi par les juifs shofar. Et le son de cette corne, alors le yobel, hein, ou le shofar, doit retentir au dernier jour. Cela est annoncé par le prophète Sophonie au chapitre 1, verset 16, mais aussi par Matthieu, l'évangile, au chapitre 24, 31. Comme il retentit à chaque jubilé. Vous voyez ? Donc il doit retentir au jour dernier, comme il retentit à chaque jubilé, car le jubilé est en réalité une préparation, une anticipation du dernier jour. Voilà. Cette introduction, si vous voulez, elle vous paraît peut-être un peu longue, mais je l'ai voulu et vous en comprendrez un peu le sens tout à l'heure. Elle donne le ton général de cette fête, de cette année. L'un des bienfaits les plus significatifs de l'année jubilaire se résume en un mot, libération. Une libération qui touche toutes les dimensions de la personne et toutes les formes d'aliénation ou d'esclavage. Vous avez entendu qu'il y a d'abord le grand pardon, c'est-à-dire le pardon de toutes les fautes, qui libère de tous les péchés. Ensuite, vous avez entendu que les esclaves sont affranchis et libérés. Vous avez entendu que les biens pris en gage ou spoliés retournent à leurs propriétaires. Là, vous avez une référence à cela au paragraphe 19 de la bulle d'indiction du pape. Enfin, les dettes sont annulées. Vous voyez ? Le jubilé est donc un temps de grâce, c'est-à-dire un temps que Dieu a consacré, ou on pourrait dire où Dieu visite son peuple et le libère. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jean-Paul II avait aussi institué une année jubilaire lors du passage de l'an 2000, qu'il avait préparé d'ailleurs par trois années, hein, une marquée par une réflexion sur le mystère du Père, une année marquée par une réflexion sur le mystère du Fils, et une année marquée par une réflexion sur le mystère de Dieu Esprit-Saint. Et le pape avait souhaité, émis le souhait, que en l'an 2000, la dette de l'Afrique soit remise par les États. Bon. Cela ne s'est pas fait, c'est probablement regrettable. Mais voyez donc hein, cette idée d'une remise à zéro des compteurs. Voilà, pour tous. Pour garantir une sorte de justice sociale aussi. Voilà. Il s'ensuit donc que l'année jubilaire comportait un souci d'égalité et de justice. Ceux qui possédaient des biens se rappeler que le temps viendrait où les esclaves israélites, redevenus leurs égaux, pourraient revendiquer leurs droits. Et ils étaient invités à partager avec ceux qui étaient dans le besoin. Et si vous voulez, cette remise à zéro des compteurs, ou cette justice, voulait être le reflet de l'ordre divin éternel. Cet ordre qui préside à la création et qui doit mener le temps à son accomplissement. C'est une sorte, si vous voulez, de réajustement cyclique des réalités de ce monde à la volonté de Dieu. Et ce réajustement devait aussi, bien sûr, toucher les cœurs. Il ne s'agissait pas seulement de répartir les biens matériels de manière à ce que chacun ait ce qu'il lui faut et on repart pour 50 ans. Puis on fera le compte dans 50 ans. Mais c'était aussi de manière à toucher les cœurs pour les amener à découvrir la souveraineté de Dieu sur le temps, sur l'histoire, sur l'univers. Et elle voulait aussi faire naître, ce réajustement voulait faire naître dans le cœur des hommes l'espérance d'un monde meilleur et entretenir aussi cette espérance et aussi donner aux hommes les moyens de sa réalisation de ce monde meilleur qu'on peut attendre bien sûr pour l'au-delà mais qu'on est aussi chargé de commencer ici-bas. C'est le royaume. D'accord ? Donc voilà que cette année jubilaire, elle était comme une école, si vous voulez. Une école qui va éduquer les hommes à essayer de restaurer cet ordre originel voulu par Dieu qui doit présider finalement à l'accomplissement du temps et mener le temps